Philippiens, chapitre 1, versets 1 à 5. Donc, nous commençons une série. On va passer à travers l'épître de Paul aux Philippiens. Et le message ce matin s'intitule « Prendre part à l'Évangile ». Nous allons lire Philippiens 1 à 5. Et on va lire ensemble. Vous pouvez lire avec moi, donc lentement, sûrement, à voix haute. Philippiens 1, 1 à 5. Je ne fais pas ceci à chaque fois, mais de temps en temps, j'ai une manière pour moi de souligner que tout ce que moi je dis doit être conforme à ce qui est écrit. Donc, pour faire la différence entre moi et ce que je peux dire, et on va se lever par honneur à la lecture de la parole de Dieu, on va se lever pendant la lecture de sa parole, versets 1 à 5. Donc, si vous avez besoin de stylo, le Philippiens 1 à 5, donc tous ensemble, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, aide-moi de bien communiquer droitement le sens de ta parole. Seigneur, aide chacun à vérifier, Seigneur Dieu, l'exactitude que, Seigneur Dieu, tout ce que moi je peux dire ou qu'un autre peut dire, que ça puisse être conforme à ta parole, Seigneur Dieu. Suivre ta parole seulement, on te prie au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, prendre part à l'Évangile. Paul avait commencé l'Église à Philippe à peu près dans l'an 50. Donc, ici et là, dans vos notes, vous avez un petit trou à remplir. L'an 50. Donc, à peu près 20 ans après que Jésus-Christ soit venu, le temps que Paul se convertisse, etc., qu'il soit envoyé en mission avec Barnabas, premier voyage, ensuite avec Silas, deuxième voyage, ensuite il arrive dans la Macédoine, et là, l'église de Philippe commence. Donc, une vingtaine d'années s'est passée. Et on lit dans Actes 16, 12 à 40, et on va y arriver tout à l'heure quand on parle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, et là ensuite, c'est 10 ans après à peu près qu'il écrit d'une prison à Rome, et on voit qu'il est en prison quand il parle, au chapitre 1, il est en prison, quand il leur adresse cet épître, et donc c'est une dizaine d'années après. Et donc l'Église a eu du temps de se développer depuis les conversions dans le livre des Actes. Et etc. Et c'est là donc qu'on voit. Et nous voyons ici très, très clairement ce qu'est une église, parce qu'il parle à tous les saints. L'église, c'est une assemblée de pécheurs perdus qui ont été sauvés par grâce, qui sont appelés saints parce qu'ils sont saints. Comme c'est dit dans 2 Thessaloniciens 2:13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification. La sanctification, c'est de faire saint, de rendre saint. Donc, par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2:13. Alors, ce n'est pas comme la religion humaine, différentes traditions d'Église. Il faut être mort, ensuite il faut que quelqu'un nous prie au ciel, puis qu'on se fasse des miracles attestés pour pouvoir être appelé saint, pour arriver à la saint, tu sais, le niveau d'être saint. Mais ça c'est des traditions humaines. La Bible ici, Paul s'adresse à des personnes vivantes, et il les appelle les saints en Jésus-Christ. Donc l'Église à Philippe, elle était composée de personnes qui s'étaient converties, que Dieu avait mis à part, que Dieu avait sauvées, Et donc, il les appelle des saints. C'est des saints en progression, une sainteté en progression pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore parfait. Paul, il le dit, comme on a lu au chapitre 3, lui-même savait que lui-même n'était pas parfait. Et à un moment donné, où ce qu'il dit, nous qui sommes parfaits, là, au sens complet, mature, mais clairement, il n'est pas arrivé à la perfection. Donc, saint, je ne veux pas dire qu'on est arrivé à la perfection, mais on a une place garantie au ciel. C'est l'œuvre de Dieu qu'on va le voir la semaine prochaine. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Là, il parle à des saints. Et on voit aussi qu'il parle à une église bien formée et bien établie bibliquement, parce qu'il parle aussi aux évêques et aux diacres. Dieu n'a pas choisi qu'on puisse se convertir, c'est ensuite qu'on fasse à notre propre idée, qu'on puisse simplement vivre sa vie chrétienne isolée ou simplement indépendant. Dieu, une fois qu'on se convertit, veut qu'on se joigne à une église locale, à d'autres croyants en Jésus-Christ, fidèles à la Bible, à l'Évangile. Et il y a une ordre de structure d'autorité dans cette église-là. Les évêques, c'est le même mot pour pasteur et diacre. Disons que ce n'est pas le même mot, mais c'est la même personne. Mais c'est trois fonctions différentes. Évêque, ça a l'air d'un grand mot en français, mais ça voulait dire surveillant. Celui qui surveille. Dans Acte 20, on voit dans le même contexte, il parle aux évêques, donc aux surveillants, puis il dit que Dieu donc vous donne grâce de paître le troupeau qui vous a été assigné, donc de paître sur lequel le Saint-Esprit vous a mis. Il dit donc de paître, de pasteur. Et peut-être parce que certaines traditions humaines ont fait que les évêques sont un peu comme oh là, c'est ouf. Beaucoup des églises qui ont continué avec le vrai évangile, ils emploient plus le terme pasteur pour les dirigeants de l'église, peut-être pour différencier avec une hiérarchie ecclésiastique, mais il n'y aurait pas de problème d'appeler nos dirigeants évêques ou anciens. Anciens, ça réfère plus à la maturité, et pasteur, la tâche de nourrir. Et diacres, les diacres, c'est des personnes qui sont à l'assistance des dirigeants de l'Église pour les permettre d'être à temps plein, comme on voit l'exemple dans Acte 6. Donc l'Église était bien organisée, et c'est important parce que Dieu ne veut pas que ni les Philippiens, ni nous aujourd'hui en 2025, soient des croyants qui simplement faisons ce que bon nous semble, sans être soumis aux autorités que Dieu a établies. Et c'est certain qu'il y a une balance dans cette autorité-là, parce que oui, comme il dit Hébreux 13, on doit obéir à nos conducteurs, mais l'Église elle-même est responsable d'avoir des conducteurs qui suivent la Bible. Donc, il y a une redevabilité. Les conducteurs, il ne faut pas leur obéir, peu importe ce qu'ils disent. Autant qu'ils suivent les critères de Dieu, autant qu'ils sont eux-mêmes là selon les critères de Dieu pour être dirigeant dans une Église, en tant que pasteur ou en tant qu'ancien évêque, c'est la même personne, le même dirigeant, eh bien, autant qu'ils suivent la parole de Dieu, oui, obéissez. Mais il faut être vigilant, pas simplement suivre bêtement et ne se laisser guider par un homme qui peut-être va aller d'un part ou d'autre de la parole de Dieu. Donc, il y a une bonne balance parce qu'après tout, comme Pierre le dit, nous sommes des, pour ceux d'entre nous, et probablement je suis le seul ici, qui sommes des sous-bergers. On a un souverain berger à qui on doit rendre compte. Et donc l'Église doit suivre son souverain berger. Et si le sous-berger commence à errer d'un côté et d'un autre, on ne le suit pas. Je vous dis toujours, vérifiez dans la Bible. C'est ce que je vous dis et confort. Suivez la parole de Dieu, c'est à la parole de Dieu. Un jour, vous allez répondre, pas d'après la parole de Raymond. Donc l'Église de Philippe ici, Paul s'adresse à l'Église de Philippe. Et ensuite, il leur donne une salutation et en Guyane, c'est bien important de se saluer. Hein. C'est comme quelque chose qui est de base, de politesse, on se salue. Il leur donne une salutation, grâce et paix. Grâce était une salutation typique grecque. Donc, j'ai oublié de vous donner un peu les mots qui manquent. Composition de l'Église, une assemblée de personnes composées de saints. Voilà. De saints. L'Église est composée de saints. On va les jeter. L'Église est composée de saints, au vrai sens du terme. Ensuite, là on arrive justement, les évêques d'assemblée étaient une Église bien organisée bibliquement avec des évêques.
au sens biblique, là, surveillant, pas au sens religieux d'aujourd'hui. Et ensuite, les diacres. Donc, et là, on est rendu justement, grâce, salutation d'origine grecque. Et différentes salutations dans différents termes. Nous, on a bonjour, on souhaite que quelqu'un ait une bonne journée. Mais aujourd'hui, c'est simplement une manière de se dire bonjour. Ah, il en manque un. Ah, verse 60.
C'est l'origine.
Pas écrit ici, mais vers 60. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Et, désolé, c'était pas clair. Donc, c'était écrit à peu près à 60 après Jésus-Christ, vers l'an 60 après Jésus-Christ. C'est bien. S'il manque de clarté dans ce qu'il faut remplir. Ensuite, paix. Grâce et paix. Ça, c'est une salutation d'origine hébreu. Shalom. Donc, les Juifs, quand ils se voient, shalom. Donc, vous lui dire bonjour, shalom. Bon, pour eux, c'est une salutation, mais, bibliquement, Paul, il dit, non seulement je vous salue avec des termes de salutation, mais c'est riche, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas juste grâce et paix, mais une vraie grâce et une vraie paix, venant de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et justement, on a besoin de sa grâce pour pouvoir s'approcher de lui, pour pouvoir être réconcilié avec lui. On a besoin de sa grâce. On est des pécheurs perdus au départ à cause de nos péchés, nos transgressions. On a besoin de sa grâce. Et c'est seulement par la grâce de Dieu qu'on peut avoir la paix avec Dieu. On peut être réconcilié et avoir la paix avec Dieu. Donc, une salutation, mais elle est significative. C'est un peu comme au Québec. Ils disent bonjour non seulement quand ils se voient au début, mais à la fin quand ils se quittent. Mais ils disent souvent bonjour, bonne journée. Là, vous dites, mais ça veut dire la même chose. Non, bonjour, c'est juste une salutation. Bonne journée, c'était le vrai souhait d'avoir une bonne journée. Parce que bonjour est juste devenu une salutation. Alors ici, on voit que Paul ne voulait pas juste dire grâce et paix, puis c'est juste une salutation. Non, non, grâce et paix, mais dans le vrai sens du terme, beaucoup plus que juste une salutation. Ensuite, l'objet de réjouissance de Paul, il dit, je me réjouis, je veux rendre grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Donc il priait pour eux et il rendait grâce à Dieu pour eux, particulièrement, comme il dit, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Au sujet de la part que vous prenez. Donc là, on parle de la différence d'être spectateur et participant. Donc, les sauvés, par définition, ils sont participants et pas juste des spectateurs. Dans l'estrade, voilà, c'est le mot qui manque, dans l'illustration, je vais y arriver. Impossible d'être sauvé sans devenir participant. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il sauve quelqu'un, il lui a préparé les bonnes œuvres à accomplir. Il le sanctifie, un minimum, comme dit Hébreu, s'il est vraiment sauvé. Et il commence à travailler. C'est vrai qu'on peut être sauvé comme au travers du feu, gaspiller l'opportunité de le servir, mais Jésus dit, Matthieu 4, 19, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Donc, Dieu a tout mis en ordre quand il nous sauve, de pouvoir aussi être là, participant. Spectateur ou participant, dans l'estrade, là c'est le mot qui manque, dans l'estrade sont les spectateurs. N'est-ce pas? Et dans l'estrade, il peut y avoir des spectateurs pour une équipe, il peut y avoir des spectateurs pour l'autre équipe, il peut y avoir des spectateurs qui sont là juste pour l'ensemble de l'activité, et puis ils ne sont pas tellement pour un ou pour l'autre, indifférents, mais il y a une chose qui n'est pas dans l'estrade, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est les participants. Et Dieu, il ne veut pas qu'on soit sauvé puis qu'on reste dans l'estrade. Qu'on soit simplement spectateur, qu'on vienne simplement une ou deux fois par semaine, s'asseoir sur le banc d'église, puis ça c'est la limite pas mal de notre participation. Il veut qu'on s'implique, qu'on travaille à l'évangile, que ce soit non seulement en témoignant personnellement, en invitant les gens, en aidant les différents programmes, que ce soit les clubs d'enfants, les clubs d'ados, que ce
ce soit l'accompagnement avec la musique, ce soit le ménage, que ce soit l'aider avec d'amener pour les repas, etc. Il y a toutes sortes de manières d'aider, que ce soit participer à transport des gens quand on est capable, etc. Il y a toutes sortes de manières d'aider, de prendre part à l'Évangile, de s'impliquer. Et Paul était content que les Philippiens n'étaient pas de simples spectateurs, mais qu'ils n'étaient pas dans l'estrade, ils étaient sur le champ, là où sur le terrain. La part que vous prenez, le mot en question, ça vient du mot grec koinonia. Bon, ça ne dit pas grand-chose koinonia en grec pour nous qui parlons français, mais c'est traduit souvent par communion, prendre part, partage. Il y a une tonne de passages, la plupart du temps c'est communion, mais pas nécessairement. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la Romains 15, 26, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution, ça c'est le mot part ici, traduit part, en faveur des pauvres. En Corinthiens 1, 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé la communion, au koinonia de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ce mot communion, prendre part, interagir, c'est là qu'il le faisait vis-à-vis de l'Évangile. Il se rendait là agent de communiquer. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on prend part? Donc les manières. La première chose qu'il faut faire, c'est se convertir avant de pouvoir prendre part. Donc peut-être pas c'est la manière, peut-être c'est le prérequis pour être plus précis, mais prendre part à l'Évangile, il faut d'abord se convertir. Donc la conversion. On ne peut pas prendre part à l'Évangile sans se convertir, justement, à cet Évangile. Et justement, si on regarde, j'ai complètement passé par-dessus l'aspect des premiers, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Regardez dans Acte 16, retournez dans Acte 16 maintenant. Dans Acte 16, il donne deux des premières conversions de l'église de Philippe. Depuis le premier jour justement la conversion, c'est depuis le premier jour qu'il dit, vous avez pris part à l'évangile depuis le premier jour. Ce premier jour là c'était le jour de la conversion au niveau personnel, et au niveau du groupe c'est les premiers qui se convertissent, ensuite les autres qui se convertissent se rajoutent au groupe qui a été commencé. Acte 16, regardez dans Acte 16, à partir du verset 12, ou se mettre dans le contexte, verset 11, c'est page 842. Acte 16, 11, il dit, « Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, donc c'est la ville principale. Et une colonie, nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendions hors de la porte vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre et de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Donc Lydie, la première qui est mentionnée ici dans la ville de Philippe, à se convertir. Elle craignait Dieu, elle cherchait Dieu. Mais comme Corneille, la crainte de Dieu en soi ne sauve pas. La crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu va nous amener à nous convertir parce que ça va nous... C'est une source de vie, comme nous dit Proverbe. Mais Corneille aussi craignait Dieu. Lydie craignait Dieu, mais ils avaient besoin d'entendre des choses par lesquelles ils seraient sauvés. C'est que la crainte de Dieu, c'est de prendre Dieu au sérieux, mais on n'est pas né avec. Hein? Au cœur de l'homme, aucun ne craint Dieu, comme dit Romains 3. Mais Dieu, avec le témoignage qu'il nous a donné de par la nature, de par la loi de Dieu qu'il a donnée à travers les Juifs dans le monde entier, la loi, l'Ancien Testament à ce moment-là, Dieu s'est révélé. Quand les hommes peuvent commencer à entendre parler du Dieu, ils peuvent commencer à le chercher, à le craindre, à le prendre au sérieux. et cette recherche et cette crainte de Dieu à faire qu'on prend ce qui est le témoignage de la parole de Dieu au sérieux. Puis le témoignage de la parole de Dieu, c'est que naturellement, on n'arrivera jamais à craindre de Dieu au sens parfait, on n'arrivera jamais à garder la loi parfaitement, on va être tous transgresseurs de la loi, le juge vivra par la foi. La loi disait, c'est en gardant les lois que tu vivras, donc il fallait garder les lois au complet pour pouvoir vivre et ne pas mériter la mort. Donc le verdict de la loi, c'est qu'on mérite la mort. Mais justement, la bonne nouvelle du Nouveau Testament et tout ce qui a été promis dans l'Ancien, c'est que Jésus-Christ viendrait pour être notre sacrifice. Et quand on met notre foi en Jésus-Christ, notre sacrifice, c'est lui qui nous rachète de tout ce que les transgressions de la loi. Et donc, cette femme, Lydie, a pris au cœur, et Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle comprenne, ah oui, moi j'ai besoin d'être sauvée. Et elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Et elle s'est fait baptiser, comme ça démontre dans Acte 2, le baptême, c'est un témoignage. Acte 2, 41, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc un témoignage qu'elle-même avait cru en Jésus-Christ. Donc Paul l'a témoigné, et sa famille, mais ce n'est pas toujours toute la famille. Dans les salutations à la fin de Romains, Paul fait la distinction. Il dit « Salut ceux de la maison d'Aristobule !» Et un verset plus loin, « Saluez ceux de la maison d'Onésime qui sont dans le Seigneur !» Donc il spécifie. Et comme aujourd'hui, il y a des familles entières qui ont cru en Jésus-Christ, il y a parfois, pas tous dans la famille qui ont choisi de se convertir. C'est au niveau individuel qu'il faut le faire. Apparemment, ici, qu'il dit, tous ceux de sa maison ont aussi accepté personnellement de croire, parce qu'il dit, et sa famille. Et donc, tout de suite, on voit l'exemple que Paul dit, justement, se réjouir de la part que vous prenez l'Évangile. Et tout de suite, en se convertissant et en étant baptisé pour témoigner de sa foi, là, elle veut tout de suite se rendre utile. Et tout de suite, ah, Paul, regarde, j'ai une grande maison, et on a de la place, je peux vous héberger le temps que vous êtes ici. Ça va me faire plaisir, le ministère d'hospitalité commence ici dans l'église de Philippe, etc. Donc tout de suite, elle commence à prendre part. Un peu plus loin, là, il continue, prêcher l'évangile. Après plusieurs jours, là, il y a une situation qui fatigue. Il y a cette femme possédée d'un démon qui crie après eux. Puis il chasse au nom de Jésus cette femme, le démon. Ceux qui profitaient de cette femme-là pour s'en tirer profit, ils ne sont pas contents. Ils les font jeter en prison, et c'est en prison que là, une autre conversion. Le geôlier qui lance durement Paul et Silas en prison, eh bien là, Paul et Silas, dans Acte 16, le dos ensanglanté, les pieds attachés, ils ont le cœur léger, parce que ça vaut la peine de souffrir si Dieu choisit qu'on souffre pour lui. C'est peu ce qu'on souffre par rapport à ce que Christ a souffert pour nous. Et la joie d'avoir témoigné, la joie d'avoir proclamé l'Évangile, et la joie qu'ils ont que Jésus est leur sauveur, ça fait qu'à minuit, ils chantaient les louanges du Seigneur. Et donc, et là, les feuilles ont tourné, excusez-moi. Là, Dieu a fait qu'un tremblement de terre, et tout le monde aurait pu s'échapper, mais personne n'est parti. Et les geôliers, quand ils ont vu ça, ils pensaient, ah bah tiens, là les chaînes sont défaites, les portes sont ouvertes, mes prisonniers sont échappés, je sais que je vais être exécuté le matin pour avoir perdu le prisonnier, je préfère ne pas attendre. Alors il va se tuer. Paul lui dit, attends, arrête, parce que personne n'est parti. Et là le geôlier, avec tout ce qu'il a entendu, avec les cantiques, tout ça, peut-être qu'il avait entendu ce que Pierre, Paul et Silas prêchaient, on ne sait pas à quel point il avait entendu. Mais il avait entendu assez pour dire une chose. Messieurs. Hein? Il dit Seigneur, c'est au sens que, comment que nous on parle. Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Acte 16, 31. Seigneur, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul, il a résumé le tout en disant, crois au Seigneur Jésus. Mets ta confiance au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et ce n'est pas juste pour toi, c'est pour toi et ta famille. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont dit, ils ont expliqué ce que ça voulait dire de croire au Seigneur Jésus, parce qu'au verset 32, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ce n'est pas lui qui devait entendre pour croire, pour que le reste de sa famille soit sauvé. C'est tout le monde qui devait en entendre parler.
Et ils en ont parlé à tout le monde, la parole du Seigneur, pour que tout le monde puisse entendre qu'est-ce que ça veut dire de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et donc ils lui ont donné la bonne nouvelle de Jésus. Et il s'est fait baptiser, lui et tous les siens. Donc tous ceux qui ont cru ont été baptisés. Et ils se sont réjouis, pas de ce qu'il avait été baptisé. Ils se sont réjouis de ce qu'il avait cru en Dieu, avec toute sa famille. Et donc, un autre exemple de conversion. Et il y en a eu d'autres à travers les années. Paul ensuite est parti, mais l'église était formée. Le début, le noyau était là, depuis le premier jour. Vous savez, depuis... L'église de Jérusalem, elle a été commencée quand les premiers disciples, donc, en recevant le Saint-Esprit, là, ils ont formé un nouveau corps. Les croyants en Jésus-Christ. Mais ensuite, à la dispersion dans Acte 8 des croyants, parce qu'il y avait la persécution, là, il y avait d'autres églises qui ont commencé dans les autres villes. On a l'église à Samarie. Là, on parle de l'église à Antioche. Là, il y a eu un premier jour à Philippe. Il y a eu un premier jour ici. Et à Pâques, on a commencé les réunions. Il y avait quelques membres qui avaient décidé de se mettre ensemble pour commencer une église. C'est une église en début, donc il y a peu de membres par rapport aux visiteurs réguliers ou pas réguliers, mais c'est un premier jour. Les églises qui nous soutiennent, il y a toujours eu un début. Quelqu'un qui est rentré dans la ville, qui a fait connaître l'Évangile, ou des personnes qui se sont converties peut-être ailleurs, qui ont déménagé là et qui ont commencé une église. Dieu ne veut pas juste le début d'une bonne église. Là, dans Apocalypse, il avertit les églises de, s'ils perdent l'amour, leur premier amour, à la longue, ils vont aussi perdre leur chandelier, ils vont perdre la lumière avec laquelle ils brillent en tant qu'église. On a des églises qui nous soutiennent, qui ont été commencées il y a 200 ans à peu près, et qui continuent à prêcher l'Évangile fidèlement. Il y a d'autres églises qui ont été commencées il y a 200 ans, longtemps, ça fait longtemps qu'ils ont changé, ils ne prêchent plus l'Évangile, ou ils ont fermé leurs portes. Et donc, c'est intéressant, quand il dit, depuis le premier jour, ils se sont organisés en tant que groupe, à un jour bien précis, puis là, ensuite, ils ont continué, puis d'autres se sont rajoutés, ils ont formé une église locale. Et Paul écrit ici à cette église locale. Donc, depuis le premier jour. Donc, conversion. Ensuite, temps et énergie. Temps et énergie. De faire part de l'Évangile, ça ne se fait pas sur un divan. Il y a des choses qu'on peut faire sur un divan pour le Seigneur. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça prend de l'effort, ça prend du travail. Chapitre 1, verset 28, il parle de faire face à l'opposition. Au verset 29, la souffrance, il vous a été fait la grâce de souffrir, non seulement de croire en lui, mais de souffrir. Mais ça nous montre que leur part à l'Évangile, leur temps et énergie, mais aussi l'attitude. Ils ont travaillé fort à avoir une bonne attitude, et Paul leur encourage de reconnaître et de se réjouir à travers les différentes difficultés de la vie, même à travers les souffrances qu'ils devaient avoir pour leur part dans l'Évangile, ils devaient souffrir, mais qu'ils s'en réjouissent, puisqu'ils le voient comme une grâce, comme un cadeau de Dieu. Et ça, c'est une œuvre de Dieu, comme on va le voir la semaine prochaine. Celui qui commence en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite, ça c'est Dieu qui travaille. Quand on se convertit, on lui fait confiance que c'est lui de A à Z. Et notre foi nous motive à obéir, mais c'est par sa grâce encore là. Mais on sait que c'est lui qui garde, c'est lui qui transforme. Mais la part, donc il leur temps et énergie. Chapitre 2, verset 12, on va le voir en détail plus tard, mais déjà il parle de travailler à votre salut. Là, on ne parle pas de travailler à son salut au sens qu'il faut eux-mêmes, il faut qu'ils se fassent leur salut. Il vient de dire au chapitre 2 que c'est juste qui a tout fait. Mais c'est travailler à votre salut au sens de déballer. C'est comme on a reçu un casse-tête, c'est beau, mais il ne fait pas grand-chose dans la boîte. Allez, on va le mettre ensemble pour qu'on puisse voir c'est quoi cette casse-tête-là. Ça fait ça beau. On était dans une maison, à un moment donné, il y avait des beaux casse-têtes qui étaient toutes faites, collées, etc., gardées comme un décor. Donc, c'est déballé. Casse-tête, un poste, un puzzle. C'est vrai, merci, parfois. Parfois, il faut oublier ce qui est du Québec et ce qui est français. Donc, un puzzle.
Un puzzle, bah, comment vous le dites? Mais déballez-le, mettez-le en fonction là. Quand on achète de quoi, les dames, pour la cuisine, est-ce que vous le laissez dans la boîte? Ça hein, le ménager, quelque chose. Là, on le déballe, allez, là, on peut s'en servir. Et Dieu veut qu'on fasse ça. Il nous a donné tout le salut. On n'en a pas de plus, mais là, il veut qu'on le déballe et qu'on le mette en œuvre. Vous savez, en 2010, il y avait une grande tragédie en Haïti, un grand tremblement de terre. Puis il y avait une énorme, je me rappelle encore à ce moment-là, il y avait une énorme mobilisation autour du monde d'envoyer de l'aide, des secouristes, parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient attrapés, qui étaient dans les décombres. Et là, il y a une course contre la montre pour les sortir des décombres. Bien sûr, pas accès à l'eau, à la nourriture, tout ça, ils étaient coincés. Il y a une énorme mobilisation. Et je me dis, autour du monde, si le monde croyait vraiment ce que Dieu dit par rapport à la mauvaise nouvelle que nos péchés nous condamnent et nous font mériter un enfer éternel, loin de lui, et que Dieu, dans sa bonté, nous donne un salut parfait, il offre un salut parfait, qu'on veut simplement bien l'accepter, avouer qu'ils sont coupables, mais accepter la justice en Jésus-Christ. Et il y aurait une énorme mobilisation pour faire connaître l'évangile à ceux qui ont pas encore entendu. Ça ferait des manchettes. Cette mobilisation a lieu, mais il y a si peu de gens qui y participent que ça ne fait pas les manchettes. La mobilisation en 2010, je me rappelle, c'était sur les journaux, hein, tout le pays qui a envoyé des secouristes, tout ça, là, une énorme mobilisation qui faisait des manchettes tous les jours. Je ne sais plus. Là, la mobilisation pour la mission, pour la bonne nouvelle, l'évangile, on ne la voit pas dans les journaux. Mais il y en a qui essayent de faire autant une grande mobilisation. Allez, tout ce qu'on doit faire, allez, tout ce qu'on a, toutes nos ressources, on doit les calculer pour pouvoir maximiser l'effort, faire connaître l'évangile. Oui, on doit manger, mais on va manger autant qu'on a besoin pour continuer à vivre, pour qu'on puisse faire notre tâche principale, être ses témoins, être la lumière dans ce monde, et faire pointer les gens à Jésus-Christ, les convier à Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose d'à côté, ce n'est pas une petite chose, non, c'est une mobilisation pour un effort maximum. Et c'est ce que Paul dit, je me rends grâce de la part que vous prenez à l'évangile. Et nous aussi, il y a des gens qu'on comprend que les gens, en spirituellement parlant, sont dans les décombres. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas l'eau vive éternelle, ils n'ont pas le pain de vie. Ils sont dans les décombres, la mort va les rattraper bientôt, ils ne peuvent y échapper. Et c'est spirituellement qu'on voit ça. Les gens, ils sont dans les décombres, ils s'occupent, ils font tout, ils ne réalisent pas, ils ne veulent pas croire qu'ils sont précaires par rapport à l'éternité, qu'ils peuvent passer dans l'éternité n'importe quand et souffrir éternellement, et ils ne mettent pas la priorité à entendre l'évangile. Et Dieu veut que nous, on les avertisse de leur condition, et qu'on se mobilise pour faire connaître le besoin d'entendre l'évangile. Et une dernière chose, brièvement, troisièmement, il y a aussi L'argent, leur effort et leurs énergies, ben, il y avait l'argent aussi, parce que ça fait une bonne partie de, justement, ce qui on est dans la vie, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, qu'est-ce qui nous est important, qu'est-ce qu'on fait avec notre portefeuille, ça va nous montrer nos priorités. Et pour les Philippiens, c'était pareil, Philippiens 4, on l'a vu tout à l'heure, Paul, il se réjouit des dons qu'il avait reçus de Philippe. Chaque église était libre de ce qu'il donnait et recevait, etc. Chaque église locale était responsable de ce qu'il faisait. Paul n'avait pas l'autorité. Je lui dis, vous faites le seul à le faire. Les autres, ils ne m'ont rien dit. Ils n'ont pas à le faire non plus. C'est vous qui avez choisi de le faire. Il dit, ce n'est pas pour moi que je dis ces choses-là. C'est par rapport à vous, aux fruits que vous... C'est comme un investissement, parce que vous voyez l'importance que l'évangile aille plus loin que chez vous. Je suis arrivé chez vous avec l'évangile. J'ai laissé derrière moi une église de gens qui était converti, mais vous savez que mon but n'était pas juste d'arrêter chez vous, d'aller plus loin pour que tout le monde entende l'évangile. Et vous avez dit, hey, maintenant qu'il est venu chez nous, maintenant que nous, on peut en ramasser assez pour nos dîmes et offrandes régulières, mais on va donner au-delà même pour pouvoir envoyer pour qu'il puisse aller encore plus loin et commencer à utiliser plus loin. Et Paul se réjouissait de cela. Et donc, oui, on va en parler plus quand on arrive à Philippiens, mais le point c'est ceci, ils avaient pris part à l'évangile. Qu'en est-il de vous, chers? Premièrement, vous êtes-vous converti? D'une vraie conversion. Il y a beaucoup de religiosité en Guyane. Il y a aussi beaucoup de non-religiosité, d'irreligion. Mais il y a une bonne part de fausse religion. Puisque les gens se disent d'être de Dieu, mais ce n'est pas le vrai évangile. Mais êtes-vous vraiment converti à la manière que Dieu parle de la bonne nouvelle? Et deuxièmement, ensuite, si oui, est-ce qu'on prend part? Est-ce qu'on se met en œuvre? Parfois, les gens ne se mettent pas en œuvre, c'est parce qu'il n'y a pas de vraie conversion. Et donc, que Dieu touche vos cœurs sur le besoin. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. On va prier. Seigneur Dieu, on te prie que tu puisses toucher les cœurs. Merci pour l'exemple des Philippiens. Depuis le premier jour, ils ont pris part à l'Évangile. Ils s'étaient convertis, se sont fait baptiser, se sont joints au groupe Seigneur Dieu, à l'Assemblée. Et ensuite, ensemble, ils ont pris part. Ils ont souffert pour l'Évangile. Ils ont porté la bonne nouvelle, portant la parole de vie. Et ils ont aussi envoyé des dons pour faire que cet évangile aille encore plus loin. Merci pour qu'ils ont pris part. Et je te prie que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur. S'il y a quiconque ici qui n'est pas certain vraiment, qui n'est pas bien fondé dans sa foi, qu'elle est certaine que c'est vraiment la foi qui sauve, une foi biblique, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, vraiment ouvrir la parole et vraiment se leur montrer, Seigneur Dieu, la bonne nouvelle, de vraiment pouvoir se convertir bibliquement. Seigneur, on te prie. Et Seigneur, fais que ceux qui te connaissent aussi grandissent et prennent de plus en plus grande part, vraiment se donnent au travail de l'Évangile, Seigneur Dieu, en tout le nom de Jésus. Amen.